France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Pour cette dernière émission avant la grande coupure estivale, je suis heureux d'accueillir Jean-Christophe Keck, éminent spécialiste d'Offenbach, mais aussi musicien complet. En sa compagnie, nous ferons un petit tour des festivals d'été où, justement, le compositeur de la vie parisienne est à l'honneur avec Geneviève de Brabant, La Permission de 10 heures, le 66, ou encore Les Contes d'Hoffmann. Jean-Christophe Keck à mes côtés dans quelques instants. En fin d'émission, Florilège estival de musique légère avec Serge et Laïc. Mais puisque c'est demain, le 1er juillet, voici d'abord en quelques chansons le programme de mes vacances.
Le temps des vacances est enfin arrivé. On voit les enfants sont pleins de gaieté. Sur le bord de l'eau, sont après s'amuser. N'allez pas trop loin, vous pouvez vous noyer.
On dit que par un, on est tous contents. Voilà les vacances qui sont arrivées. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Faut tout oublier les fatigues de l'année.
Dimanche passé, je suis allé me baigner à la rivière des prairies, il y a beaucoup d'enjeux. Et dans le fond de l'eau, il y a de la bite de café. J'ai la feuille coupée et puis l'eau de rinchée.
Vous le dites, chaparin, qu'on est tous contents. Voilà les vacances qui sont arrivées. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Faut tout oublier les fatigues de l'année.
Elle est bonne?
Ah oui, oui. C'est froid.
Qu'on est bien avec les pieds dans l'eau.
Près du petit bois, c'est en un étang.
Un petit étang et des plus tentants.
Le soleil est en éclatant. Nous avons dit, baignons-nous à l'instant.
Un duc, qu'on est heureux quand on trempe ses pieds dans l'eau bleue.
Tous les soucis s'évanouissent
lorsqu'on est dans l'eau du Canipi. Un duc, qu'on est heureux, on se sent le cœur sous la peau.
On oublie tout avec délice
qu'on est bien avec des pieds dans l'eau.
Vosgien sous l'ombrage des grands sapins mystérieux. Écoute le joli ramage des petits oiseaux radieux. Alors de son flûte rustique, il accompagne de son mieux. Tandis qu'au loin l'écho magique prête son concours gracieux.
Ti, ti.
Le programme complet de l'été avec d'abord la Bolduc venue du Canada et qui nous chante les joies et aussi tous les dangers des grandes vacances. Et puis tout de suite après, en cette même année 1932, c'était Mireille et Jean Sablon qui évoquaient évidemment le plaisir de mettre les pieds dans l'eau. Et pour finir, le pâtre vosgien à l'ombre des grands sapins de la forêt où je vais aller moi-même bientôt probablement me reposer. C'était Andréani en 1934.
Thank you.
Oui, et puis bien sûr, si vous êtes dans la région de Montauban cet été, vous allumerez une belle flambée et vous écouterez cette merveilleuse musique de Gus Wieser, La Flambée montalbanaise.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Il faut préciser d'ailleurs que pas très loin de Montauban se trouve Bruniquel. Et Bruniquel, c'est le lieu d'un des festivals Offenbach, festival animé notamment par notre ami Jean-Christophe Keck, qui est venu si souvent dans cette émission nous parler d'Offenbach, de Roger Roger et de tout ce qu'il aime. Alors aujourd'hui, il est ici et nous allons faire ensemble un petit tour d'horizon des festivals en commençant par Bruniquel et en nous arrêtant principalement à la grande place de Jacques Offenbach au cours de cette saison d'été.
Une poule sur un mur qui picotait du pain dur, appelait ton cocoton, son coq absent pour l'instant. On était au mois de mai, et déjà l'air enflammé, et moustillé jusqu'aux os, les chats, les chiens, les oiseaux. Coq-coq-coq ! Quelques chants de basse cour. Coq-coq-coq ! Renferme d'amour. Est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratte gratifié de l'ardeur de mes 20 ans? Est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratte gratifié de l'ardeur de mes 20 ans? J'en ai comme un vertigo. J'en ai comme un vertigo. La poulette que l'amour tracassait depuis un jour, frétillait d'un air coquet, et qui vont le provoquer. Aussi son coquin de coq, perché non loin sur un soc, le voyant en frétillé, rentra vite au poulailler. Coquelicot ! Que ce soit de basse coque. Coquelicot ! Renferme d'amour. Est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratte gratifié de l'ardeur de mes 20 ans? Est-ce une nouvelle vie ou l'effet du printemps qui me gratte gratifié de l'ardeur de mes 20 ans? J'en ai comme un vertigo. J'en ai comme un vertigo.
Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Benoît.
Très heureux de vous retrouver à ce micro pour évoquer la grande présence, on va le voir, d'Offenbach cet été dans les festivals. Mais d'abord, alors, cette chanson de la poule, vous savez que je l'adore.
Eh oui,
c'est
sûr.
Un grand moment d'extravagance Offenbach.
Tout à fait. Mais là, elle est incomplète, malheureusement.
Alors ça, c'est la version raccourcie, parce que dans certains disques, c'est beaucoup plus développé.
Oui, hein. Mais c'est une version raccourcie par Madame Denise Vautrin, hein, qui avait la paire de ciseaux à la radio pour faire des émissions qui duraient à peu près 2 heures et il fallait couper. Alors des fois, elle coupait ce morceau, des fois, elle coupait un autre. Il y a d'autres versions de la radio, la version est complète, mais
complète,
là...
Voilà. Là, alors là, c'est quand même, il faut dire, avec l'excellent Jean Giraudeau,
oui, tout à fait.
Sous la direction de l'excellent Marcel Carrier.
Que des excellences.
Vous qui êtes aussi l'éditeur scientifique, on peut dire, de l'œuvre d'Offenbach, justement, cette Geneviève de Brabant, elle est déjà passée par vos soins.
Ah, tout à fait, oui, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce que c'était une commande de l'Opéra de Montpellier qui nous a demandé de faire la version de 1867, parce qu'il y a 3 versions dans Geneviève de Brabant. Et puis Montpellier a rajouté, après quelques petits extraits de notre version antérieure, que moi je trouve moins bonne, la première. D'ailleurs, si Offenbach refait ses versions, souvent c'est qu'il y a un souci avec la première. Hein.
Ouais.
On a le cas avec la Péricole, par exemple, vous savez, on dit toujours, ah, on va donner la version de 1868. Mais non, ça a eu un succès à la première, mais bon, le livret est foireux, il faut bien le dire, la fin est un peu ratée. Et donc Offenbach va essayer 7-8 fois, je crois, de refaire des versions de la Péricole pour arriver à la version finale.
Et c'est le cas aussi, donc, pour Geneviève
de
Brabant. Cette chanson de la poule, il y a quelque chose à dire dessus précisément. Elle est dans toutes les versions, déjà.
Ah oui, oui, bah, c'est le tube de...
C'est le tube de l'œuvre.
Alors, si on l'enlève. Mais c'est vrai que dans la dernière version de Geneviève, 1875, alors là, c'est très alourdi, quoi. On va dire, c'était l'époque des déballés féeries et tout ça, donc.
On va y revenir tout à l'heure. Mais alors, en tout cas, on peut dire que Geneviève de Brabant, que vous allez présenter cet été à Bruniquel, c'est un des sommets de ce qu'on peut appeler la loufoquerie offenbachienne.
Oh oui, même j'allais dire un des sommets de ses œuvres. C'est génial, Geneviève de Brabant.
Moi, j'adore.
Mais... Ah oui, bah, vous n'êtes pas le seul, j'allais dire. Moi, je partage
tout à fait.
Bah
non, on est les seuls.
Mais
parce
voilà,
que
peut-être.
Ça ne fait pas partie du groupe des 6 ou 7 œuvres célèbres d'Offenbach.
Ouais. Non, c'est vrai, effectivement. Pourquoi, je ne sais pas, parce que moi, personnellement, je trouve le livret excellent. J'ai donné l'idée à Franck Tézan, donc le metteur en scène et directeur du festival de Bruniquel. Et bon, il ne savait pas trop. Puis alors, au fur et à mesure qu'il travaillait dessus, il m'a dit, mais elle est géniale, cette pièce. Et bien sûr qu'elle est géniale. Et surtout, cette version de 67 est très équilibrée. Il y a un bon équilibre dramatique. Puis bon, la musique est très, très bonne.
Voilà. Mais ça n'a jamais fait partie.
Non.
de la liste des grands succès d'Offenbach.
Vous savez, sur... à la radio, ils l'ont joué quelques fois quand même. Hein. Oui. Ça a été donné un petit peu par-ci, par-là. Les troupes amateurs le reprennent des fois. Mais c'est vrai que bon, ça n'a rien à voir avec des Belles Hélènes, des Péricoles. Ouais. Peut-être parce que c'est pas Méliac à Lévis aussi, je ne sais pas.
Mais bon. Alors, on va revenir à Geneviève de Brabant, mais juste une petite question avant de développer le sujet, Jean-Christophe. Parce que tout d'un coup, je m'aperçois, je ne vous l'ai jamais posé cette question. Vous êtes tombé comment dans Offenbach?
Je vais dire, c'est quoi le
non bah, votre
tombé,
premier souvenir
grâce
d'Offenbach.
À Michel Serrault, je suis tombé, oui, et oui.
C'était Michel Serrault.
Oui, tout à fait. J'avais 13 ans, je crois, 13 ou 14 ans, et j'ai vu à la télévision la série Les Folies Offenbach avec Michel Serrault dans le rôle de titre. Ça a été le coup de foudre. Ça ne s'explique pas. Bon, après, j'ai entendu un disque de la Belle Hélène qu'avait mon père, un disque de Leibowitz, ouais. Vous savez, cette fameuse Belle Hélène, avec une pochette horrible de la Guilde internationale ouais. du disque. Et du coup, j'avais jamais été attiré par ce disque, mais là, je l'ai écouté. Et alors après, je l'ai écouté en boucle. Mais ensuite, c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais je n'ai pas choisi Offenbach, c'est lui qui m'a choisi, je dirais, parce que je suis incapable de dire pourquoi lui plutôt qu'un autre.
Mais la série télévisée donc, de Michel Serrault... à revoir après ce premier petit enchantement de jeunesse.
Oui, oui, non,
ça
non,
tient
oui.
le coup?
Ah, mais toujours, oui.
Ah, oui.
Alors, avec plein de choses fausses, oui. historiquement, il y a même des épisodes entiers qui n'ont pas existé.
Ils ont inventé pour le scénario.
Ah oui, il y en a un qui se passe entièrement à Compiègne, qui s'appelle Le train de Récabo pour la Péricole. Or, Offenbach, je crois, n'a jamais mis les pieds dans les séries de Compiègne. Donc, mais en même temps, c'est tellement émouvant. Et puis bon.
Et musicalement, c'est cette série?
Oui. Mais alors, il y avait des petits extraits en plus sympathiques. C'était Laurent Petit-Girard qui avait fait les arrangements. Même la musique de Laurent Petit-Girard est excellente. Ça colle à cette époque. Enfin, c'est voilà.
Alors, avec vous donc aujourd'hui avec Offenbach, on va d'abord se pencher un peu plus sur Geneviève de Brabant, une œuvre où il est énormément question, comme souvent chez Offenbach, de nourriture et de boissons, et notamment du pâté.
Salut, salut, noble assemblée. Je vous apporte un remède certain, fait pour une tête couronnée. Il ne peut qu'être souverain, ces messieurs. Un pâté,
un pâté.
Contemplez ce pâté,
quel pâté.
Attendez et regardez.
Attendons. Regardons.
C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon.
De jambon.
Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon.
Qu'il est bon.
C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon.
De jambon.
Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon.
Qu'il est bon.
Rafraîchissant et tonique par son heureuse combinaison d'une bonne politique, il est l'expression. Salué au bourgmestre, car il contient dans son flanc l'héritier de votre maître et l'avenir du Brabant. C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon.
De jambon.
Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon.
Il est bon.
C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon.
De jambon.
Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon.
Il est bon.
Par sa vertu singulière, il laisse derrière lui la douce revalestière de l'enchanteur du Barry. C'est de la reine des filles qu'il tient ses dons éclatants. Chacune de ses bouchées vous rajeunit de 5 ans. Si par amour de la science, en attendant, vous voulez sur vous faire une expérience, ne vous gênez pas, parlez, parlez. Par ses effets inestimables sur l'imagination, il rend les maris aimables après 15 ans d'union. Au nom de vos moitiés, il faut que vous en goûtiez. Oh, c'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon.
De jambon.
Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon.
Il est bon.
C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon.
De jambon.
C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon. Quoique fait de pâte ferme, aussi léger qu'il est bon. Si par amour de la science, en attendant, vous voulez surtout faire une expérience, ne vous gênez pas, parlez, 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 parlez.
un morceau très emblématique du comique offenbachien, puisque c'est un vrai air d'opéra, avec des paroles qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit habituellement à l'opéra.
Qu'est-ce qui fait le génie d'Offenbach aussi? Le génie parodique, en tout cas. Par exemple, dans La Vie parisienne, vous avez ce fameux duo du nuage qui voyage. Si on enlève les paroles, par exemple, on a une mélodie tout à fait charmante, qui peut être tout à fait prise au sérieux. Par contre, vous mettez les paroles dessus, et là, on a un décalage. C'est le décalage, en fait.
C'est le principe, Jean-Christophe Keck, que vous connaissez mieux que personne, puisque vous avez édité, enregistré, vous montez aussi avec votre ami Franck Thézan, donc à Bruniquel, les œuvres d'Offenbach. Alors, je voudrais d'abord qu'on rappelle un peu ce que c'est que le festival de Bruniquel. Pas très loin de Montauban, j'ai dit tout à l'heure.
Dans le Tarn-et-Garonne.
Dans le Tarn-et-Garonne.
Très très joli village, magnifique, même un des plus beaux villages de France.
Oui.
Qui est donc à côté de l'Aveyron, sur une pointe rocheuse.
Et un château.
Deux châteaux. Le château ancien, le château moderne, on dit. Et enfin moderne, il y a un moyenâgeux et puis l'autre un peu plus tardif. Et donc il y a longtemps de ça, 22 ans je crois. Ouais. Et bien même 23, nous avions donné avec Franck Thézan un concert à Montricou, qui est un petit village à côté. À la Gare des Arts, exactement. Et puis est venue cette idée de monter ce festival. Et c'est Franck, bien sûr, qui l'a eu, puisqu'il est originaire de là-bas.
De cette région.
Voilà. Alors, il a cherché dans différents villages à caser cette idée, qui n'a pas été toujours bien reçue, sauf quand on est arrivé à Bruniquel, où le maire, qui était un jeune maire qui venait d'être élu, a dit « Ah, moi, je prends tout de suite. »
Et avec quels moyens, alors?
Des moyens du bord. Voilà, tout à fait.
Mais quand même un vrai orchestre.
Ah, au début, non. Au début, c'est un piano. Oui. Alors, au début, on avait un piano, puis je me rappelle, on avait trois trompettes qui faisaient des sonneries pour appeler le public, par exemple, des choses comme ça. Et on avait fait Croquefer. Le premier spectacle qu'on a fait, c'était Croquefer.
Le dernier des Paladins, une grande loufoquerie, un peu comme Geneviève de Brabant, d'ailleurs.
Oui, excellent. Et puis bon, c'est surtout que le lieu s'y prête, parce qu'on est dans un château, donc on est en décor naturel. Et que ce soit pour Geneviève ou pour Croquefer, ça sera la même chose. On va avoir un paysage moyenâgeux
pour cette œuvre qui se déroule au Moyen-Âge.
Tout à fait, exactement.
Alors, le festival donc, s'est développé au fil du temps. Il a un public fidèle. Il se prolonge par des grandes soirées avec des buffets, paraît-il, extraordinaires.
Où les chanteurs continuent la soirée, c'est-à-dire que bon, il y a un repas, mais en même temps, il y a un deuxième spectacle, j'allais dire, donc des fois, ça peut terminer très tard.
Voilà. Mais maintenant, vous avez un vrai orchestre, une vraie troupe, etc.
Vrai orchestre. C'est un petit orchestre. Moi, je rêve toujours d'un plus grand orchestre, mais bon, je sais pas d'ailleurs où on le mettrait, parce que quand même, ça manque de place. Mais il y a un orchestre. Et vous savez, souvent, on pose cette question parce que je suis un petit peu tatillon là-dessus. Offenbach, c'est quand même aussi un compositeur pour orchestre. C'est-à-dire, le piano, c'est bien gentil. Moi-même, je fais beaucoup de concerts avec piano parce que je n'ai pas les moyens de faire autrement. Et pour présenter une œuvre, par exemple, ça peut être sympathique. Ouais. Mais quand même, enlever l'orchestre de l'œuvre d'Offenbach, c'est comme enlever les muscles à un squelette, quoi. Et quand on a l'orchestre, eh ben, ça change tout.
Alors, au fil des années à Bruniquel, donc avec Franck Thézan, vous avez présenté des grands Offenbach, des petits, des célèbres, des plus rares, etc. L'an dernier,
c'était une reprise d'Orphée, donc
On était dans le grand classique.
Tout à fait, parce que des fois, on a fait deux ou trois reprises quand même.
Et cette année, c'est la première fois que vous montez Geneviève de
Tout
Brabant.
Tout à fait. Donc, alors, ça dépend, j'allais dire, des éditions, parce que souvent, Franck me disait, ça serait bien qu'on fasse telle œuvre, mais pour des questions pratiques, il faut d'abord qu'elle soit. Moi, je préfère qu'elle soit éditée, parce qu'on peut toujours reprendre les vieilles partitions, mais avec les risques, c'est bourré de fautes. Et on n'a pas le temps à Bruniquel. Nous avons des musiciens professionnels, donc qui travaillent rapidement, mais on ne va pas passer trois heures à corriger des fautes. Donc, j'attends que les éditions soient refaites par mes soins, comme ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Et Geneviève de Brabant, donc, un peu comme le Chilpéric d'Hervé, c'est au fond une œuvre qui est une parodie du haut Moyen-Âge qui commençait à intéresser beaucoup tout le monde, justement, sur le Second Empire à l'époque de Offenbach.
D'ailleurs, il y a une chose émouvante, c'est que j'ai travaillé là pendant trois ans avec la famille Offenbach pour faire un peu l'inventaire de tout ce qu'ils avaient dans leur belle maison. Et je suis tombé sur la légende dorée de Jacques de Voragine, c'est-à-dire le livre qui contient l'histoire de Sainte-Geneviève. Et je me dis, mais si ça se trouve, c'est à ce moment-là qu'Offenbach a eu l'idée de confier à des librettistes ce personnage, ou peut-être que les librettistes y en ont parlé, et Jacques Offenbach a lu cette fameuse légende des saints pour...
Donc, on y retrouve Charles Martel, on y retrouve les Croisés, mais à la gare du Nord.
Oui, ils partent en Palestine, mais en fait, ils s'arrêtent à Nanterre, parce qu'ils vont faire la fête là-bas, et puis bon, ils vont pas plus loin, ils vont pas s'embêter, quoi.
Voilà, et puis, donc vous disiez, Offenbach a confié ce livret à Hector Crémieux et Étienne Trefeux, qui sont des grands librettistes de l'époque, mais pourquoi pas, puisqu'on est en plein dans la grande époque Meillac-Halévy, pourquoi pas ces deux-là?
Déjà, bon, la première version, c'est jamais très feu, si ma mémoire est bonne. Alors, moi, je perds un peu la tête là maintenant, la mémoire, disons, en tout cas. Et après, ça, le premier livret de 1859 est très, très embrouillé. Alors là,
donc, c'était une petite version en deux actes.
En deux actes, voilà. Pas si petite que ça. C'est du genre Orphée aux Enfers, qui est du faux
première
deux actes.
Première version.
C'est-à-dire, on met deux actes, mais en fait, c'est les... ouais. Il y a plein de tableaux dedans, donc finalement, ça fait d'autres. C'est très amusant, mais on s'y perd complètement. Et la deuxième version, donc 1867, elle est vraiment retravaillée entièrement.
Par Crémieux, qui est voilà. Un grand librettiste, voilà, celui d'Orphée aux Enfers notamment.
C'est une bonne chose qu'il arrive à ce moment-là, parce qu'il va remettre un peu d'ordre dans tout ça.
Et pourquoi pas Meillac et Lévy?
D'abord parce qu'à cette époque-là, Meillac-Lévy était occupé à d'autres choses, tout simplement. Ah oui. 67, c'est quand même l'année clé pour Offenbach. Il est joué dans 5 théâtres à la fois à Paris, sans compter tous les théâtres à l'étranger, hein, même jusqu'au Pérou, jusqu'au Brésil, partout, en Angleterre. Bon. Et à Paris, bon, il a ses casseroles sur le feu. Mais Meillac-Lévy, ils sont en train de s'occuper de la grande duchesse de Gerolstein, quand même, ce qui n'est pas
oui,
une mince
affaire. Ils ne peuvent pas tout faire.
Non,
en fait, voilà. D'où le fait que Geneviève de Brabant est signée par d'autres. Alors, parmi les grands morceaux de comique musicale et en même temps de belle musique, comme toujours chez Offenbach, de l'œuvre, il y a ce quatuor de chasse. Alors là, on est au troisième acte.
Tout à fait.
Hein, expliquez-nous juste en deux mots.
Ils reviennent soi-disant de Palestine.
En réalité de Nanterre.
Nanterre, voilà. Ouais. Eh bien, ils sont à chasse, tout simplement.
Et donc, c'est un jeu d'imitation, hein, des sons, des corps, avec la bouche fermée, c'est ça?
Oui, alors la question qui se pose sur la partition, c'est qu'il y a quatre gardes-chasse, en fait. Et alors, on ne sait pas si ce sont des femmes ou des hommes qui chantent. Normalement, ce sont des femmes qui chantent. Mais après, alors, la tradition a fait que ça a été chanté par quatre hommes, des fois deux hommes, deux femmes. Enfin, c'est... Souvent, à la radio, c'était quatre hommes. Et d'ailleurs, c'est bien parce que ça marche très, très bien.
C'est ce qu'on va écouter maintenant. Voilà. Quelques-uns des chanteurs de cette distribution. Geneviève de Brabant, de Jacques Offenbach, enregistré en 1956 sous la direction de Marcel Cariven. C'est vous d'ailleurs, Jean-Christophe Keck, qui avez fait éditer en CD cet enregistrement de nos archives radio-lyriques.
Je ne me rappelais plus, mais effectivement.
Oui. Heureusement d'ailleurs, parce que ce n'est pas une œuvre dont on avait d'enregistrement tellement disponible avant.
Oui.
Et celui-là est excellent. Mais l'œuvre a été relativement bien enregistrée à la radio, contrairement
à d'autres. Ah oui, il y a 4 ou 5 versions au moins, ce qui n'est pas rien. Alors, soit avec Droguin chanté par une femme, soit par un homme, parce qu'à l'origine, c'était chanté par une femme, le rôle travesti.
On entendait tout à l'heure pour le pâté.
Tout à fait. Et puis, là, justement, c'était un homme qui chantait, Michel Hamel, mais bon, c'est selon l'un.
Première version 59, deuxième version 1867 et troisième version, on en redit un mot, là c'était une espèce de revue à grand spectacle où au fond Offenbach a rajouté des numéros. Hein,
tout à fait, c'est voilà. Une version de 1875 au Théâtre de la Gaîté et là Offenbach faisait des opéras féeries à grand spectacle. Alors c'est fabuleux parce que j'ai retrouvé il y a peu de temps la partition, la version de ce 1875. Alors il y a un numéro qui n'a jamais été publié où tous les grands personnages d'Offenbach se retrouvent et aussi tous les grands personnages de l'opéra Faust, etc.
Ah oui.
Et ça, il faudrait absolument le donner parce que c'est
il avait même fait appel à des vedettes de l'époque, hein,
oui,
comme la chanteuse Teresa, par exemple.
Voilà, Teresa, à qui il a écrit un rôle sur, enfin, il a fait écrire un rôle sur mesure, qui est d'ailleurs un rôle à transformation. À un moment, elle s'appelle Biscotte, puis à un moment, elle s'appelle la nourrice ambulante. Enfin, c'est.
Mais cette version, vous pensez de 75, en fait, elle n'est pas tellement possible à remonter.
Oh, mais si, puisque regardez, on a remonté le roi Carotte, bon, pas tout à fait comme il aurait fallu, avec, enfin, on n'avait pas les moyens aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous savez, si on veut, on peut. Je suis désolé, on a la vidéo, on a des tas de choses. Il faut avoir la volonté de le faire et c'est ce qui manque le plus, hein, je crois, plus que les moyens.
Oui, ça pour, en tout cas, pour ce qui est de ce genre que nous aimons,
voilà.
Ça manque un peu de bonne volonté. Oui.
Tout à fait.
En tout cas, Jean-Christophe Keck, donc vous, c'est la version de 1867 que vous donnez à Bruniquel. Alors, vous ne faites pas spécialement à Bruniquel dans les productions décalées, transposées, changement d'époque, changement de lieu, changement de tout. Ouais. Non, vous gardez tout, vous.
J'allais dire, tout est permis, mais moi d'abord, bon, j'allais dire, moi je m'occupe de la musique, hein. J'ai pas mon mot à dire. Et par exemple, Franck Tézin avait choisi de faire Mademoiselle Moucheron il y a quelques temps avec en transposant en 68. Bon, c'est son affaire.
C'est son choix.
C'est son choix, tout à fait. Mais pour Geneviève, non, on sera en plein Moyen-Âge.
Et avec la distribution, donc vous pouvez peut-être nous dire aussi un mot.
Oui, bien sûr. Ce sont les fidèles de Bruniquel aussi. Parce que Bruniquel, c'est un esprit et c'est une troupe. Donc, on retrouve, bien sûr, Rose Fabre, Géraldine Cazé, Julia Jérôme, Jeanne-Marie Lévy, un des piliers de Bruniquel, Aurélie Fargue, Emmanuel Zoldan, Emmanuel Mercier, Solène Grilla, Michel Vessière, Christophe Crapez. Il y en a d'autres encore, Maxime Cohen, Dominique Desmond, bien sûr, le fameux Dominique Desmond, Till Fechner, Franck Tézin, évidemment, qui joue aussi.
Mais des gens très bien dans la liste.
Ah oui, vous avez
passé tout le monde en revue, mais c'est des très bons chanteurs tous. Hein.
Tout à fait, tout à fait.
Donc ça, c'est à Bruniquel, à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août.
À cheval.
Geneviève de Brabant. On va passer en revue quelques autres œuvres d'Offenbach, puisque vous nous faites le plaisir d'être là ce matin. Mais on va finir pour ce qui est de Geneviève de Brabant. Alors avec une chose un peu plus rare, c'est cette ouverture fantaisie. Alors,
C'est Cariven qui écrivait des ouvertures fantasy.
Marcel Cariven, chef d'orchestre attitré de la radio de l'époque.
Tout à fait. Ben, il avait écrit quelques fantaisies qui ont été enregistrées d'ailleurs en vinyle à l'époque, et d'autres qui n'ont pas été enregistrées, mais qui étaient données. Il remplaçait l'ouverture par une ouverture fantasy.
Une nouvelle ouverture.
Voilà,
quoi.
Qui était un peu plus longue.
Il prenait des thèmes.
Tout à fait. Ben, c'est-à-dire qu'il prenait le canevas de l'ouverture existante, puis il rajoutait des thèmes, et ça va donner. Très très jolie fantaisie d'ailleurs.
Voilà, et c'est un enregistrement avec l'orchestre lyrique de l'ORTF en 1971.
Thank you.
Ouverture fantaisie de Geneviève de Brabant, arrangée donc par Marcel Cariven, à la tête ici de l'orchestre lyrique de l'ORTF en 1971. Et je suis donc toujours en compagnie de Jean-Christophe Keck pour évoquer quelques-uns des festivals de l'été, outre Bruniquel dont on vient de parler. Il faut dire, Jean-Christophe Keck, que je regardais les programmes de l'été en matière d'opérette. C'est à la fois magnifique et consternant. Magnifique parce que Offenbach est partout.
Oui.
Et tant mieux. Alors, à l'Opéra de Barry, Monsieur Choufleury et le 66, à l'Opéra de Beaujais, Orphée aux Enfers, à Bruniquel, Geneviève de Brabant, à Étretat, Dragonnette et la Permission de 10 heures, à La Malou-les-Bains, La Vie parisienne et La Belle Hélène, à Montpellier, La Péricole, à Saint-Céré, Les Contes d'Hoffmann, et j'en passe. Et consternant parce que il n'y a que Offenbach. Tous les autres compositeurs d'opérette ont disparu. Alors je me dis, on ne peut pas en vouloir à Offenbach. Au contraire, finalement, grâce à lui, quand même, ce genre qui est si maltraité reste présent.
J'allais dire, passion
pour Offenbach et une négligence pour tout le reste.
Le problème, c'est que ça devient été comme hiver maintenant. Avant, au moins, il y avait les fêtes de fin d'année où les opéras
montaient d'autres heures quand même.
Et maintenant, ça se perd aussi. Et bon, vous savez que moi, j'adore aussi d'autres compositeurs.
Je sais bien.
Que ce soit les Cloches de Corneville, la fille de Madame Angot, tout ça, ce sont des chefs-d'œuvre. Hein. C'est regrettable, c'est tout ce que je peux dire, mais bon.
Mais on peut dire au moins que le genre, même s'il est de moins en moins jeune, ne disparaîtra pas parce qu'il y aura toujours Offenbach.
Mais parce que il est peut-être un peu différent des autres aussi. C'est peut-être pour ça qu'il reste. Je pense que c'est un tout. C'est-à-dire que ses livrets aussi sont plus pertinents que ce qu'il y a eu après, peut-être.
Pourtant, c'est le même librettiste.
Oui, mais Offenbach avait un flair pour trouver le bon livret. Pour trouver le bon sujet surtout. Regardez, si on regarde les livrets d'Offenbach, ils ne sont pas datés pour la plupart. Comme ce sont des parodies, que ce soit du Moyen-Âge, de l'Antiquité, mais ça n'a pas d'âge, on peut le redonner n'importe quand. À côté d'une Veuve joyeuse où on a des références à des empires de carton, je veux dire, ça a énormément vieilli ces choses-là. Alors que chez Offenbach, ça vieillit pas. Et puis, il y a tout ce qui est satire et parodie qui ne sont pas dans les opérettes Fleurs Bleues.
Ouais.
Mais même chez Offenbach, je vois par exemple les deux aveugles qui faisaient mourir de rire le public de la création. Aujourd'hui, on n'est plus naïf comme ça. Hein. La télévision a fait son passage et on rit plus de la même façon. Hein.
Offenbach lui-même, qu'est-ce qu'il pensait des autres compositeurs d'opérette? Parce qu'après tout, il n'était pas le premier ni le seul. Il y avait autour de lui Hervé, Lecoq, Chabrier, Delibes.
C'était aussi des concurrents. Hein. C'était pas que des. On va dire. Il y avait des concurrents. Hervé, par exemple, on pourrait dire que c'était un concurrent. Il n'y avait jamais de bataille ouverte, je dirais, à part Wagner, où là, c'est une autre affaire.
C'est pas un compositeur d'opérette.
Voilà. Et puis, Lecoq avait été un peu ingrat, on va dire, avec Offenbach. Mais tous, vous savez, ils sont pas tendres avec Offenbach. Quand on regarde la correspondance, que ce soit Bizet, que ce soit Delibes, alors qu'ils sont dans son giron,
puisqu'ils lui doivent beaucoup,
c'est lui quand même qui les a lancés, qu'en plus, il les invite régulièrement chez lui à des soupers, on voit toujours Bizet.
Ils se voient, tous ces gens-là, ils sont amis.
Bizet est très ami avec le fils d'Offenbach, mais de temps en temps, ils disent que cet Offenbach envahit tout, et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, ils pourraient dire la même chose, c'est-à-dire que ce monstre d'Offenbach...
il prend toute la place. Parce qu'il le mérite, peut-être.
Et parce qu'il est génial, tout simplement, excusez-le.
J'ai cité un certain nombre de festivals qui montrent des œuvres d'Offenbach. Alors, il y a des œuvres connues que j'ai citées, et puis il y a aussi des raretés. Je voudrais qu'on s'arrête peut-être plutôt aux raretés. Et notamment, second festival Offenbach après Bruniquel, c'est le festival d'Étretat, que je connais bien parce que je suis souvent là-bas l'été, et qui donne cet été, deux œuvres d'inspiration militaire. Une qui avait déjà été montée à Étretat, qui est Dragonnette, et puis l'autre, peut-être plus connu, mais enfin de peu de gens, qui est La Permission de 10 heures.
Un peu plus connu parce qu'elle a eu un enregistrement à la radio, quoi, c'est tout en fait. Et Dragonnette n'avait pas d'enregistrement du tout.
Alors parlons d'abord de La Permission de 10 heures, juste en quelques mots, c'est quoi?
C'est une histoire justement de soldats qui doivent avoir une permission. Alors c'est très embrouillé. Il y a une histoire de dame et puis de sa femme de chambre et puis de deux autres soldats. Ils vont s'inverser pour avoir leur amante. Enfin vous savez, les livrets d'opérette c'est toujours irracontable et celui-là en particulier. Mais c'est très drôle quoi. Il y a quelques rebondissements qui sont bien amusants.
C'est une œuvre qui date.
C'est la 1867, c'est-à-dire toujours encore,
comme
cette époque, voilà. Et la Grande Duchesse. Et quand je vous disais qu'il était joué 5 fois à Paris, mais en plus l'été, il était joué à Bad Ems. Alors ça fait partie des œuvres qui ont été répétées à Bad Ems et qui n'ont été recréées que très longtemps après à Paris pour des raisons de direction de théâtre qui n'ont pas voulu prendre l'œuvre ou je ne sais pas, puisque la partition a été donnée au Bouffe Parisien en 1873, vous voyez.
Mais donc, à Bad Ems en 67, c'était dans quelle langue?
C'était en français.
En français.
Tout le monde parlait français à Bad Ems. Hein, c'était l'aristocratie. l'aristocratie parisienne avait envahi Bad Ems. Et d'ailleurs, c'est un poète marseillais qui s'appelait Méry, qui a conseillé à Offenbach d'aller à Bad Ems pour la première fois. Et il est parti en villégiature là-bas dans le début des années 60 et il y est resté jusqu'à la guerre 70, où il a dit qu'il ne remettrait plus jamais les pieds en Allemagne.
Alors, on va écouter les couplets de Lanternique, chantés par René Lenotti, dans la permission de Deezer, un enregistrement de l'orchestre Radio Lille en 1952.
Que je fasse une petite connaissance, plein de complaisance et d'attachement, avec un joli attachement. Pourquoi pas, les femmes ont ces positifs, pour l'état, le soldat, ont un faible superlatif. Le son des trompettes, le bruit des tambours, oh ya, ça les ravit toujours. Le son des trompettes, ratatatatata, le son des tambours, ça les ravit, toujours. Je possède sans forfanterie tout ce qui peut rendre les hommes contents. Je suis le phénix de l'infanterie. J'ai l'art de la charge en tout ce temps. Pourtant, je te l'avoue, camarade, je sens un vide au fond du cœur. Malgré ma mine, malgré mon grade, il manque quelque chose à mon bonheur. Faut que je fasse une petite connaissance, plein de complaisance et d'attachement, avec un joli attachement. Pourquoi pas, les femmes ont ces positifs, pour l'état de soldats ont un faible superlatif. Le son des trompettes, le bruit des tambours, oh ya, ça les ravit toujours. Le son des trompettes, rataplan, le son des tambours, ça les ravit toujours.
René Lenotti qui chantait les couplets de Lanternique dans la permission de Deezer d'Offenbach, une œuvre qu'on peut retrouver cet été donc au festival Offenbach d'Étretat. Ce sera au tout début du mois d'août et on pourra voir également à Étretat Dragonette, alors reprise mais peu connue, donc je voudrais qu'on dise aussi quelques mots, Jean-Christophe Kek.
Ah oui, c'est une belle histoire. Alors ça fait partie des ouvrages un peu fleur bleue d'Offenbach, vous savez, ouais. où c'est une histoire d'une jeune fille qui va sauver son frère, qui passe pour un déserteur, et en fin de compte, il était allé sauver un régiment. Enfin bon, c'est une jolie histoire. Vous l'avez vu d'ailleurs, je pense.
Oui, j'avais vu cette production d'Yves Coudray, qui dirige ce festival avec beaucoup d'engagement et de talent, et avec toujours des très bons chanteurs aussi.
Et alors, je ne sais pas si vous avez choisi de le faire entendre aujourd'hui, mais il y a un air justement là-dedans, et ça, c'est tout Offenbach. C'est-à-dire, bon, c'est un petit ouvrage, hein, Dragonette, mais on a un air qui pourrait être un air d'un grand opéra de l'époque, l'air de Dragonette, justement.
On va l'écouter d'ailleurs.
Ah, ben, ça tombe bien. Et on parlait d'orchestre tout à l'heure, ben voilà. Cet air sans orchestre, c'est plus la même chose. Quoi. Et Offenbach, c'est un grand orchestrateur. Je me rappelle votre amie Suzy Delair qui m'avait dit un jour « Oh non, Offenbach, c'est pas orchestré, c'est ploum ploum ». Alors là, je me dis « Oh non, je suis pas d'accord avec vous, je suis désolé ».
Pourtant, elle l'a bien chanté.
Ouais. En plus, elle adorait, mais elle m'avait dit ça, et ça avait été resté en travers du gossier.
Mais c'est une chose qu'on entend souvent.
Mais oui, mais parce que c'était on pensait à ça à l'époque.
On entend aussi que d'ailleurs, de toute façon, les orchestrations d'Offenbach n'existaient pas, c'est pour ça qu'il faut les faire.
Oh oui, ça, ce sont des prétextes, soit pour passer au tiroir orchestre, soit pour valoriser son ego. Mais bon, non, toutes les partitions, Offenbach a tout orchestré. C'était surtout un fin orchestrateur, comme on va pouvoir l'entendre là.
Mais vous qui vous occupez alors donc de l'édition monumentale des œuvres d'Offenbach chez Bouzé en Aux depuis des années maintenant, Jean-Christophe Kek, vous pouvez retrouver donc des parties d'orchestre pour la plupart des œuvres. À partir de quoi? On n'a pas gardé les matériels d'orchestre.
Si, mais c'est compliqué par contre, parce que on a gardé des matériels, mais souvent qui ont été en partie détruits, en partie modifiés.
Mais qui a gardé les matériels? Les éditeurs, bien sûr.
Mais
pour les reprises.
Oui, malheureusement, souvent, ils n'ont pas fait leur métier correctement. Il y a eu des époques où on a on a jeté des matériels entiers, hein, les Trois Baisers du Diable, par exemple, je pense à eux. Des fois, un théâtre ne rendait pas une partition de flûte, bah, allez, hop, c'était fini, on jetait tout, on gardait la chose incomplète.
Et sur les conducteurs, il y a des indications
Alors, souvent, chez les éditeurs français, on a des conducteurs de piano avec des indications de départ d'instruments, c'est tout. Et en fait, la source importante, c'est que ce sont quand même les manuscrits autographes. Et ça, c'est ce que je m'échine à retrouver. Ce qui est fou, c'est que j'en ai déjà retrouvé beaucoup, beaucoup, mais il reste encore beaucoup à retrouver. Alors je me dis, est-ce que ça a été perdu? Bon, il y a des choses perdues, il y a des choses volées, il y a des choses détruites, on ne sait pas. Mais ce qui est dommage, c'est par exemple de voir des productions aujourd'hui où on continue à faire des partitions avec des matériels fautifs, alors qu'on a les manuscrits autographes. Pour ça, l'éditeur a un travail aussi. Il apporte beaucoup en créant ces nouvelles éditions, et c'est un travail très important.
Alors on va justement goûter l'art d'orchestrateur d'Offenbach donc dans ses couplets de Dragonnette chantés par Guylaine Raffanel sous la direction d'un certain Jean-Christophe Keck justement avec l'orchestre Pas de Loup.
Oui j'ai menti mais c'est pour lui comme son ange tutélaire la pauvre sœur veille sur son frère, il défend, oui, le défend, jour et nuit.
Couplet de Dragonnette de Jacques Offenbach, chanté par Guylaine Raffanel, qui est d'ailleurs la fondatrice du festival Offenbach d'Étretat.
Vrai, c'est vrai.
Et donc, voilà, on pourra redécouvrir cette œuvre ainsi que la permission de Deezer à Étretat cet été. Et on a pu aussi entendre un de vos nombreux enregistrements d'Offenbach, Jean-Christophe.
Oh, pas Kek. Assez nombreux, malheureusement.
Ah bon, vous voudriez
évidemment. Et mon rêve, ça aurait été d'enregistrer toute l'œuvre. Mais...
Et faire une intégrale. C'était parti à un moment donné avec
Montpellier,
je me rappelle.
Je suis le roi des intégrales en un volume.
Oui, c'est ça, vous commencez plein d'intégrales et puis ça s'arrête.
C'est pas moi qui arrête, c'est que malheureusement, alors peut-être que c'est mauvais, c'est pour ça. Non, je sais pas.
Non, c'est que c'est trop énorme, les intégrales d'Offenbach.
Bon, non, l'OEK, je veux dire qu'il y a l'intégrale de l'édition. Ça, quand même, on en est à, je sais plus, on a édité déjà une soixantaine d'œuvres, donc oui. ça a bien son train. L'année prochaine, donc, c'est le bicentenaire de la naissance d'Offenbach. C'est aussi, comme par hasard, le 20e anniversaire de l'édition Offenbach. On a commencé en 99. Et je me dis, bon, on a publié beaucoup d'œuvres, mais au niveau discographique, qu'est-ce qui s'est fait? Alors, il y a eu quand même des grandes choses, les fameux Minkowski, toutes ces choses-là, mais c'est très peu à côté de ce qu'on aurait pu faire.
C'est vrai que les intégrales se sont un petit peu arrêtées.
Ah,
là,
mais beaucoup, oui. Ouais, moi, je suis navré de voir que, malheureusement, au niveau discographique, ça s'effondre. Non, moi, je rêve que d'une chose, c'est de trouver un riche nabab mécène qui me dise, on va enregistrer Offenbach dans les conditions qu'il faut. Parce qu'on faisait référence à Étretat. Je sais qu'à Étretat, ils font les spectacles avec un piano ou quelques instruments, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais je suis sûr que ce soit Philippe Huy ou Coudray, il serait très content d'avoir un orchestre complet à Étretat. Je veux dire, quand on n'a pas les moyens de le faire autrement, bon, ben, on fait avec un arrangement. Mais je veux dire, moi, ce qui me rend furieux, je dirais, c'est de voir des gens qui ont des moyens, des fois, et qui préfèrent, pour des raisons assez obscures, faire des arrangements.
Oui, dans les maisons d'opéra, en particulier, aujourd'hui, ils font toujours l'opérette à l'économie, au fond.
Mais c'est terrible. Enfin, on est là quand même pour surtout certains qui se targuent de ressortir le répertoire du 19e, de soutenir ce répertoire et qui font faire des arrangements, mais je trouve ça un peu déplacé, quoi. Je vois pas trop l'intérêt.
Et vous-même, est-ce que vous allez continuer, je crois avoir vu que oui, à l'Odéon de Marseille, le meilleur théâtre d'opérette de France, de très loin, cette série de concerts-lectures autour des œuvres en un acte d'Offenbach.
Ah oui, je suis très content. Je
remercie, c'est la saison prochaine.
Maurice Liberas, donc bien sûr, on continue pour la troisième saison. Et on fait cinq opérettes par an à peu près.
Donc à chaque fois vous présentez l'opérette.
Voilà. Alors que... là on n'est pas dans une configuration dramatique, j'allais dire, puisque ça se passe dans le foyer du théâtre où on présente d'abord, il y a une petite conférence, disons, qui présente le contexte de l'époque, toutes ces choses-là. Et après c'est une lecture avec piano, mais il n'y a pas un mot de supprimé dans le livret, pas une note de supprimé dans la partition. C'est-à-dire c'est une présentation.
Un concert lecture.
Voilà, un concert lecture. Alors bien sûr, avec orchestre ça serait mieux, mais bon c'est pas le propos, j'allais dire.
En tout cas, voilà, si vous êtes Marseillais, vous êtes heureux parce que vous pouvez voir plein de belles choses au théâtre Odéon.
Là, il y a une fille de tambour major, une œuvre qu'on ne donne plus d'ailleurs, et c'est bien dommage. Et elle vient d'être donnée au théâtre de l'Odéon.
Je reviens au Festival de l'été, Jean-Christophe Keck, notamment à l'Opéra de Barry, près de Bordeaux. On va pouvoir voir le 66. Alors le 66, c'est une œuvre que je ne connais pas du tout de Offenbach.
Très très jolie partition. Moi, c'est une de mes préférées.
Ah, carrément?
Oui, oui, tout à fait. Vous allez dire, oui, c'est toujours une de vos préférées.
Oui, c'est
Non, mais c'est pas grave. Non, mais celle-là, c'est une des premières que j'ai entendues. Et très très jolie partition, très équilibrée. Et on l'a donnée plusieurs fois, que ce soit à l'École Normale à Paris, que ce soit au théâtre à Marseille, à la Péniche Opéra, toujours dans ses concerts lectures, et le public a adoré parce qu'il y a un très savant équilibre entre le comique, le bouffe et la tendresse.
C'est une œuvre de quelle époque?
1856, donc tout début.
Début d'Offenbach, combien d'actes?
Un acte, bien sûr, et c'est ce qu'on appelle une opérette, parce que, alors là, on peut y passer.
Oui, entre opéra, bouffe, voilà. Opéra comique.
Eh ben, opérette, c'est la définition mozartienne, c'est-à-dire petit opéra, un acte, très peu de personnages, donc trois personnages, une action réduite, un seul décor, enfin voilà.
Le sujet à peu près, ça tourne autour de...
Alors, c'est une histoire de gain à une loterie. Un jeune homme qui est très simple et qui croit avoir gagné le numéro 66 et il devient fat du fait d'avoir gagné. Et en fait, il se rend compte que c'est le 99.
Bah oui,
bien sûr. Et voilà, c'est une grande leçon qu'il doit tirer de tout ça.
Et on écoute la Tyrolienne. Il faut dire que Offenbach adorait les Tyroliennes. Oui. Il adorait aussi que, comme on vient d'entendre, faire chanter les taratata, les imitations de trompettes par les ténors. Il y a des tics comme ça. Là.
Il fait aussi chanter la trompette au soprano des fois.
Hein. Ah bon, d'accord. Et les Tyroliennes, alors ça, il adore. Et là, c'est Claudine Collard et René Lénotti, toujours sous la direction de Marcel Cariven.
Chez nous, l'argent est rare, mais pour vivre en chemin, nous chantons notre guitare sur notre gagne-pain.
Pour la pauvre famille, grâce à nos chants joyeux,
grâce à toi si gentille, on sera généreux.
Assez, il faudra que l'on vienne applaudir notre tyrolienne.
Mais de la clochette, le sang chante, ta 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 ta, à sa chance de mettre, se met le soudain.
Et là, il le fait!
la 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 la
la la la la la la la
la la la la la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
la la
la la
Claudine Collard et René Lenotti dans cet extrait du 66 d'Offenbach, enregistré en 1954. Alors le 66, cet été donc, c'est à l'Opéra de Paris. Et puis j'ajoute, Jean-Christophe Kay, que également cet été, même si on va pas développer, qu'on pourra revoir les contes d'Hoffmann à Saint-Céré, qui avait déjà été monté là-bas par Olivier Desbordes, et qu'on pourra entendre en version concert à Montpellier, au Festival de Radio France, la Péricole dirigée par notre ami Marc Minkowski, avant... la production scénique qui suivra dans quelques mois à Bordeaux. Voilà, donc beaucoup d'Offenbach cet été, beaucoup d'Offenbach à venir l'année prochaine pour le bicentenaire, voilà. Vous nous l'avez dit,
beaucoup.
Des raretés quand même.
J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, sûrement. D'ailleurs.
Vous viendrez en parler, il y aura Barkouf, Maître Péronilla, oui. Madame Fava, des grandes productions.
Ça c'est en France, mais Barbe Bleue aussi à l'Opéra de Lyon, mais il va y avoir beaucoup de choses à l'étranger, enfin tout le monde... Il va être plus célébré que Gounod, je pense, hein, d'ailleurs, parce que notre pauvre Gounod, quoi qu'il a eu quand même quelques beaux concerts, mais...
Bah oui. Voilà. Il lui reste Faust, mais le reste. Hein,
oui, oui.
Bon, Jean-Christophe Kay, on va se quitter avec Roger Roger.
Ah bah oui, c'est toujours un grand plaisir.
C'est toujours une de vos passions.
Ah,
aussi.
Ça reste une de mes passions.
Vous faites beaucoup toujours pour faire connaître sa musique. Alors vous avez choisi.
J'essaye malgré les difficultés, mais j'essaye.
Personnage et figurine.
Ah oui, j'adore. C'est une suite d'orchestre. Vous savez les fameuses suites que commandait la radio. Et il y a quelques tableaux magnifiques. Et là, on a une valse qui, pour moi, est de la joie de vivre pure. C'est-à-dire, vous écoutez ça, ça fait du bien. C'est de la musique thérapeutique, la musique de Roger Roger. Mais c'est en ça qu'il rejoint Offenbach, je trouve. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose de... C'est de la musique qui fait du bien, quoi.
C'est tout ce qu'on aime
ici,
alors. On
a un peu, vous savez.
Merci Jean-Christophe et j'espère à bientôt.
Merci à vous, Benoît. À bientôt.
Thank you.
plein feu, un extrait de la suite Personnages et figurines de Roger Roger, interprété par Roger Roger et son grand orchestre. C'était un choix de mon invité aujourd'hui, Jean-Christophe Keck, que vous pourrez donc retrouver à partir du 26 juillet jusqu'au 5 août à Bruniquel pour le Festival des Châteaux de Bruniquel avec Geneviève de Brabant d'Offenbach. Et puis à ne pas rater non plus Dragonnette et la permission de 10 heures à l'autre festival d'Offenbach au début du mois d'août. Ça, c'est à Étretat.
With a chance to dictate, I would say, let it wait, I'd rather lead a band. My every care ceases, I'm rich as old Croesus, when I've got 10 pieces in hand. If I could have a millionaire with a whole block of banks, I would just whisper thanks, I'd rather lead a band.
Je voudrais être chef d'orchestre. I'd rather lead band, c'est le nom de ce morceau d'Irving Berlin par le Ritz-Carlton Orchestra avec Stuart Allen qui chantait la partie vocale à la fin. Une ravissante petite chose de 1936.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et pour nous quitter avec quelques autres ravissantes petites choses, alors du côté de la musique viennoise, j'ai ressorti un disque qui m'a enchanté cette année. Je vous en ai fait écouter plusieurs extraits. C'est un disque de l'Orchestre Symphonique de Vienne sous la direction de Manfred Honeck avec un certain nombre de grands maîtres de la musique légère donc de Vienne et notamment Max Schönherr, excellent compositeur qui est spécialement célèbre pour ses danses d'Autriche. On va écouter tout de suite deux de ses danses. D'abord la cinquième, la danse des glisseurs, et puis la huitième, la plus célèbre, le galop des paysans. La danse des glisseurs et le galop des paysans de Max Schoenherr, compositeur né en 1903, mort en 1984. C'est un extrait du disque Printemps à Vienne de l'Orchestre Symphonique de Vienne sous la direction de Manfred Honeck. Et puis avant de retrouver Serge Laïc, un dernier petit morceau, extrait d'une opérette qui s'intitule justement Vacances. Voilà, c'est d'actualité. C'est une opérette de Maurice Yvain, parmi celles qu'on a vraiment beaucoup oubliées. Elle avait pourtant des interprètes célèbres et spécialement le chanteur Georges Milton, qui chante ici, faut simplifier.
Progrès, c'est beau, c'est du nouveau, mais faut ce qu'il faut. On complique trop, il y a des bistrots qu'on leur bâche chaud, je trouve ça idiot. Je suis éduqué sans trop chiquer, j'ai pas poussé dans un lycée, je suis ni breveté ni licencié, je suis illettré. Mais en calcul, je ne suis pas nul, j'ai observé et j'ai trouvé que un et un font trois avec. Un peu de sang-froid, c'est suffisant pour être commerçant. Faut simplifier, faut simplifier. Il y a des usages à modifier. Dans un dîner, chaque invité a devant lui cinq verres alignés. C'est bête comme chou, puisqu'après tout, tous les pinards vont dans le même trou. Champagne ou piccolo, moi je vois ça au boulot. Et c'est du temps de gagner, faut tout simplifier. Et c'est comme pour les mots d'amour, les longs discours pour faire la cour. On tourne autour et tête des tours et ça nous court. Tous les serments qu'ont les amants, les sentiments du commencement, les ménagements avant le moment du boniment. Se contemplant yeux dans les yeux, on perd bêtement un temps précieux. On baise le bout des doigts, la main, une ou deux fois, huit jours durant. On ne va pas plus avant, faut simplifier. Faut simplifier, en amour faut surtout se méfier. Des doux propos, à fleur de peau, pourquoi tourner autour du pot. Votre belle vous dit, tu me feras chérie, une situation vous dit oui. J'ai plusieurs positions à ta disposition, tu pourras vérifier, faut tout simplifier. La TSF manque de relief et notre grief, c'est que son chef n'a pas BZF de gros bénéf, car Prokofiev, les Stravinsky, les Respighi, tout y canti, Coursul, Kiki, des braves gens qui trouvent plus exquis du Toselli. Faut simplifier pour bien solfier, tenez mon air, n'en a pas l'air, il est fait sur deux notes afin qu'on le tapote et que vous puissiez le chanter sans l'étudier. Si, 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 do, 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 si, 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 do, do, si, do, si, 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 do, 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 si, 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 do, do, si, do, si, 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 do, 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 si, 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 do, do, si, do, 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 si, 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 do, 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 si, 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 do, si, do, mi.
L'excellent orchestre de Pierre Chagnon avec Georges Milton dans l'opérette Vacances de Maurice Yvain. Et oui, les vacances pour moi c'est maintenant ou presque, mais je vous retrouverai au cœur de l'été la nuit du 17 au 18 août prochain pour une émission en hommage à quelques grandes personnalités qui nous ont quittés depuis 2 ans et que j'avais eu le bonheur de recevoir ces dernières années dans Étonnez-moi Benoît. Alors du 17 au 18 août, pendant toute la nuit, eh bien Michel Sénéchal, Pierre Barou, Denise Duval, Jean-Marc Thibault, Léo Marjane, Gisèle Casadesus et Pierre Belmar seront à l'antenne avec ces grands entretiens que vous pourrez retrouver en intégralité. Voilà un rendez-vous, je crois, à ne pas manquer la nuit du 17 août sur France Musique. Et avant les vacances quand même, eh bien, il nous reste le temps de retrouver un peu de musique légère avec notre ami Serge Elaïc. Et oui Serge, bonjour, c'est vous qui avez la lourde responsabilité de mettre fin à cette saison.
Ah. Et oui, bonjour Benoît, alors les vacances sont à nos portes, n'arrêtez pas de le dire, et je vous propose des musiques de divertissement interprétées par de brillants solistes. Alors Benoît, accrochez-vous car David Carroll et ses musiciens vont dévaler les touches du piano et les lames du vibraphone ou du xylophone avec un tempo plus que rapide quand ils jouent Dizzy Fingers.
Impressionnant.
Ah oui, je vous avais dit, je voulais vous étonner,
Fingers,
Benoît.
Vous m'avez étonné, Dizzy Fingers par David Carroll et son orchestre en 1968, une virtuosité incroyable au vibraphone.
Absolument, au xylo et au piano.
Et à tout.
Alors, après les percussionnistes, c'est le grand chef d'orchestre américain Ray Conniff qui tient le rôle de siffleur, exercice musical pour lequel il se révèle particulièrement doué et il interprète « The Check of Araby ».
Ray Conniff dans le Check d'Araby en 1966. Il dirige l'orchestre tout en sifflant.
Absolument.
Donc Serge Laïc qui nous présente sa petite sélection estivale.
Alors, duo de choc ensuite avec les réputés Acker Bilk, clarinettiste anglais, et Ben Fabric, pianiste danois toujours vivant à 93 ans, Benoît.
Ah.
Et oui, il joue Just a Gigolo, composé dans les années 20, succès international grâce au fameux chanteur et trompettiste Louis Prima.
Thank you.
Acker Bilk à la clarinette, Ben Fabric au piano dans Just Gigolo 1965. Très bel enregistrement encore choisi par notre ami Serge Elaïc.
Alors, retour à la très grande virtuosité avec le trio d'harmonicistes de Jerry Murad. Ils interprètent le fameux galop des comédiens du russe Dmitri Kabalevski, extrait le plus connu de sa suite orchestrale, Les Comédiens.
Jerry Murad et son trio d'harmonicistes, ici donc en 1967, dans le fameux galop des comédiens. Toujours un choix de Serge Elaïc.
Alors, nous voici en Allemagne, Benoît, où le chef d'orchestre Horst Jankowski interprète avec le son cristallin de son piano le fameux « So What's New ». Horst Jankowski sera d'ailleurs plusieurs années le chef de l'orchestre de danse de la radio du secteur américain de Berlin, c'est-à-dire la RIAS.
Ah, ça swingait dans le secteur américain de Berlin dans les années 60, ici en 1966 avec So What's New de Horst Jankowski. Serge et Laïc, les derniers mots.
Eh bien oui, comme chaque année, il est temps d'accorder des vacances au pupitre de cordes avec l'incontournable Holiday for Strings.
Bien sûr.
La belle composition de David Rose. Holiday for Strings est là, interprétée par le guitariste italien Bruno Battisti da Mario, bien connu pour son jeu de guitare dans les musiques d'Ennio Morricone pour « Il était une fois la révolution, le bon, la brute et le truand, il était une fois dans l'Ouest ».
Le guitariste Bruno Battisti da Mario dans sa version d'Holiday for Strings, enregistrée en 1969. Merci pour toutes ces petites merveilles.
C'est moi qui vous remercie. Benoît.
Vous viendrez à la rentrée, mais alors là, pour une fois, comme invité principal, oui. Parce que vous sortez un livre qu'on attend tous avec impatience, hein, Les arrangeurs de la chanson française, résumé de tout ce que vous nous racontez ici depuis des années. Oui. C'est sous presse.
C'est presque sous presse. Là, je suis dans les toutes dernières relectures.
Bon, alors on en parlera ensemble à ce micro au début du mois d'octobre.
Voilà, ça sort aux éditions textuelles.
Merci et bonnes vacances à vous, Serge et Laïc.
Merci à vous, Benoît. Merci à toute l'équipe.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Julie Garraud, réalisation Christine Amado. Et nous avons donc rendez-vous du 17 au 18 août pour toute une nuit spéciale Étonnez-moi Benoît, hommage à nos chers disparus. Et puis bien sûr, rentrée le samedi 1er septembre où j'aurai le plaisir de recevoir Marcel Hamon. D'ici là, bonnes vacances à tous. Et bien sûr, comme chaque samedi, vous avez rendez-vous maintenant avec Philippe Venturini.
À réécouter sur francemusique.fr.